Shalom tout le monde. Si vous fermez la porte, ça sera encore mieux. Bon. Il y a dans... Shalom. Il y a dans le texte de la troisième bénédiction, Mishmona Esrei, un texte supplémentaire qu'on appelle la Kedusha. Autrement dit, l'appendice des félins. Et donc, l'appendice du félin, c'est la Kedusha. Donc, oui, très bien. Oui, donc, la Kedusha est récitée en public. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la prière en yahid, seul, on ne récite pas la Kedusha. Quand on la fait en public, on récite la Kedusha. Pour une raison très simple, c'est que la sainteté en Israël est une sainteté d'ordre collectif et non pas individuel. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, dans la parasha, dans le livre de Vayikra, on dit « Kedoshim tihiyu, vous serez saints ». La Torah commence par Vaidaber Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Moshe s'adressa à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Rashi nous dit là-bas, Melamed chez Paracha Zon et Mrabeakel. Cela vient nous dire que cette paracha a été récitée en public. A priori, Rashi semble dire une banalité, puisque le texte a dit que Moshe a parlé à toute l'assemblée d'Israël. Est-ce que j'ai besoin de Rashi pour savoir que ça a été dit en public? C'est une évidence, et ça tombe sous le sens, c'est une banalité, quoi.
Non, c'est les rois, là.
À moins que ça veut dire autre chose, d'après Rashi, c'est que Rashi veut nous dire que la sainteté se fait en public. Kedoshim tiyu, c'est Beakel. Il n'y a pas de sainteté au niveau individuel, il y a une sainteté, en Israël en tout cas, qui vient de la collectivité. C'est à partir du peuple d'Israël. C'est du collectif que le peuple d'Israël tire sa sainteté. Et donc, tant qu'il n'y a pas de minyan, il n'y a pas une micro-société, tant qu'il n'y a pas de micro-société, il n'y a pas de Kedusha qui tienne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit la Kedusha uniquement lors de la prière en commun, plus précisément dans la Hazara. Dans la Hazara, dans la répétition de l'Amida par le ministre officiant, eh bien, c'est là que ça se dit. Maintenant, pour le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait la Hazara. Pourquoi est-ce que le ministre officiant dit la Hazara? Il y a à ce propos deux approches tout à fait diamétralement opposées, celle du Niglé et celle du Nista, c'est-à-dire de la tradition révélée et celle de la tradition cachée. D'après la tradition révélée, la raison pour laquelle on fait la Hazara, c'est parce qu'il y a des individus qui ne savent pas faire la prière, donc on les acquitte. On les acquitte par une prière collective à voix haute, faite par le ministre officiant. Mais, en fait, c'est d'un niveau moindre, c'est uniquement pour acquitter les ignorants. D'après la Kabbale, d'après la tradition cachée, c'est exactement le contraire. La prière individuelle est d'un certain niveau, très élevé quand même, mais il y a un niveau encore plus élevé, c'est celui du klal. Et donc la Hazara Tashat, c'est un niveau supérieur auquel on accède après avoir fait d'abord sa prière individuelle. Oui ? Qu'est-ce que tu voulais ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si tu réponds Amen, si tu ne bouges pas de ta place et que tu réponds Amen à chaque bénédiction récitée par le ministre officiant, eh bien, donc, tu peux t'acquitter de ton devoir. Oui, tu voulais dire que ce n'est pas contradictoire. Effectivement, ce n'est pas obligé d'être contradictoire. Donc, je reprends ici la question. Oui, quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Elokai Netzor à la fin de la Hazara ? Parce qu'on ne fait jamais Elokai Netzor. Quand on a fini la prière individuelle, on ne fait jamais Elokai Netzor à la fin. Oui. Oui, aussi Shalom Roma, oui alors. Non, tu as fait Elohai Netzor avec un E. Maintenant, oui. Donc pourquoi ne pas faire Elohai Netzor pendant la Hazara? Pour une raison très simple, c'est que c'est dit au singulier. Le singulier, c'est de l'individuel. Le Elohai Netzor, c'est une prière rajoutée par l'individu, à la fin de sa prière, il veut rajouter quelque chose. Ce n'est pas de l'obligatoire, c'est du facultatif, Eloah Netzor. Maintenant, on a pris l'habitude de le faire, très bien, mais ça ne concerne pas la collectivité. D'accord ? Oui ? On fait la Hazara à Shacharit et à Mincha. Oui, on ne fait pas Arvit. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Arvit ? Pour raison très simple, c'est qu'à l'origine, la prière d'Arvit est facultative. À l'origine. Bon.
Est-ce que,
oui.
Vous dirais que c'est la phrase pour Arvit de Shabbat. Est-ce que j'ai l'impression que c'est une petite Hazara qu'il
faut ? Il y a une petite. Oui, il y a la bénédiction que le ministre officiant récite après le service. Après l'oraison du vendredi soir, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors pourquoi est-ce qu'elle existe, cette bracha ? Elle existe à cause des retardataires. On ne veut pas laisser les retardataires seuls dans les synagogues. Les synagogues, dans l'Antiquité, étaient souvent isolées. Elles étaient en dehors du Yishuv, en dehors du village. Et donc, si quelqu'un finissait sa prière plus tard que l'assemblée, il risquait de rester seul ou en tout cas en petit nombre dans la synagogue et rentrer dans l'obscurité à la ville, et donc ils étaient exposés à des dangers. Donc pour empêcher ce danger, on a institué une sorte de mini chazara le vendredi soir pour allonger.
Celui qui écoute cette mini chazara, est-ce qu'il est quitte de la Yéda?
Non. Celui qui écoute cette mini chazara n'est pas quitte de la Hamida.
Donc il doit rentrer chez lui et la faire.
Il doit rentrer chez lui et faire la Hamida. Voilà. Très bien. Donc je reviens. Maintenant, le soir de Pessah, on ne fait pas, même si ça tombe à Shabbat, on ne fait pas cette mini chazara. Parce qu'on dit que le soir de Pessah, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas les mazikim, les forces malfaisantes n'ont pas de prise le soir du Seder. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on est dispensé de faire la lecture du schéma sur son lit le soir du Seder, pour la même raison. Et on laisse la porte ouverte. Et c'est très dangereux de laisser la... Non, on parle d'autre chose. Il y a parfois des dangers. Par exemple, on dit que il y a eu des drames dans les sous-marins belges lorsque la marine belge a fait une opération porte ouverte. Qu'est-ce qu'il y a encore eu?
Bon.
Arrête! On fait des progrès quand même. Bon. Bon. Alors je reviens ici donc à la Kedusha. La Kedusha se fait en public. Alors c'est quoi exactement la Kedusha? C'est exprimer la sainteté de l'Assemblée d'Israël. Maintenant, cette sainteté, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la sainteté des anges. C'est pour ça que dans le texte de la Kedusha, on parle de la manière dont cette Kedusha est récitée par les anges. Et puis nous disons, nous aussi, nous récitons cette Kedusha. Mais il y a différentes manières de se comparer aux anges. Il y a des cas où les anges font la Kedusha, et puis on les imite. Et puis il y a parfois des cas où on fait en même temps qu'eux. Il y a des cas où c'est eux qui nous imitent. Alors par exemple, je vais expliquer tout d'après le texte. On dit par exemple, chez nos frères Ashkenaz, dans le Noussar Ashkenaz, « Nekadesh et Shimcha ba'olam »« Nous allons sanctifier ton nom dans le monde »« Keshem shemakdishim oto bishme marom » de la même manière dont il est sanctifié dans les cieux d'en haut, « Kakatu valia nevi'echa » ainsi que c'est écrit par ton prophète. Et après, on dit donc Kadosh, Kadosh, etc. Donc, on voit bien que dans cette formulation de nos frères Ashkenaz, eh bien, on dit d'abord que ce sont les anges qui savent sanctifier, et puis nous les imitons. Nekadesh et Shimcha Baolam, Keshem. Nous allons sanctifier ton nom sur la terre de la même manière que les anges sanctifient. Donc, c'est eux le modèle, et nous sommes une copie. N'est-ce pas? Il y a un peu de ça mais c'est un peu différent dans la Kiddusha telle qu'elle est récitée par nos frères séfarades. Par exemple, dans le texte de nos frères séfarades, qui est également celui de nos frères les chassidim, on lit comme ça, Nagdishar v'naharitzar, ou bien Nagdishra v'naharitzra, nous te sanctifions et nous t'admirons, que Noam Siach Sotsarfe Kodesh. De la même manière que de la manière agréable du discours de l'assemblée des saints séraphins. Ameshi Aleshim Lecha Kedusha, qui récite trois fois, qui proclame trois fois ta sainteté. Vechen Katu Valia Nivira, ainsi qu'il est dit par ton prophète, Vekarazé Elzevamar Kadosh Kadosh. Il y a donc, on voit qu'ici, chez nos frères Sépharad, on considère que c'est simultané ou quasi simultané la sainteté, la Kedusha récitée par les anges et celle par les hommes. Et puis, il y a également la Kedusha de Moussaf. Celle de Moussaf, alors chez nos frères Ashkenaz, la Kedusha de Moussaf est équivalente à la Kedusha habituelle de nos frères Sépharad, la Gishra Venaritzra. Mais chez les Chassidim et nos frères Sépharad, alors il y a la Kedusha qu'on appelle Keter. Keter. Alors Keter, ça veut dire une couronne. Hein? Où ça? À Moussaf. Oui, dans le livre que tu tiens en main, qui est un livre. Où ça? Ici, au Machon Meir. Comment est-ce qu'on fait au Machon Meir à Moussaf? Est-ce qu'on fait Keter? C'est possible, je ne sais pas quel est le Moussaf. C'est Sfard. Alors dans ce cas-là, ils font le Keter. Keter, Yitenu Lecha, ils te donneront une couronne. Hachem Eloenu, l'Éternel notre Dieu. Malachim Amoné Ma'ala, les anges de la multitude d'en haut. Im Amecha Israël, avec ton peuple Israël, que vous de matar assemblés en bas. Ça veut dire que l'initiative, elle vient de nous, nous autres, les enfants d'Israël, et les anges s'associent. C'est à un niveau supérieur. Donc vous avez trois manières de faire la Kedusha. Et parce qu'en principe, on attendrait des hommes de faire la sainteté, la Kedusha, et les anges de s'associer. Mais ce n'est pas toujours réalisable. En jour de Hol, pour l'essentiel, eh bien, c'est les anges qui font le travail et nous, on les suit. Vous vous rappelez qu'on avait parlé la dernière fois des larmes des anges? Voilà. C'est un rapport à ça. Mais donc, qu'est-ce qu'ils disent, les anges? Les anges, ils ont différentes manières de parler. Nous avons deux textes, l'un du prophète Isaïe, Yeshayahu, et l'autre du prophète Ézéchiel, en hébreu,
Yeheskel.
Très bien. Donc vous voyez que ça me donne un encouragement, comme quoi ce que j'enseigne finalement est intégré. Oui.
Juste si c'est par rapport au Shabbat.
Ah, parce que Moussaf, c'est la prière rajoutée pour Shabbat, qui vient exprimer la sainteté particulière de la journée. Donc, donc c'est très bien. Donc, vous avez un texte d'Isaïe, un autre d'Ézéchiel, et dans celui d'Isaïe, on dit comme cela. « Ve kara ze elze ve amar » Ils s'adressent l'un à l'autre en disant, mais qui c'est ça, les « ils » Quels anges? Les séraphims.
Les séraphims.
Les séraphims, ce sont des séraphins. Les séraphins, ça peut vouloir dire ceux qui brûlent, et des brûlots.
Des brûleurs.
Des brûleurs. Et ça peut vouloir dire également des serpents. Le mot saraf, en hébreu, désigne parfois un serpent. Un serpent venimeux, qui brûle, dont la morsure brûle. Et de là d'ailleurs le mot latin, serpens, qui en français a donné serpent. Mais en français ou en latin, ça n'a aucune signification. En hébreu, on comprend, il y a une origine étymologique, saraf, brûlé. Et le prophète Isaïe dit qu'il voit des séraphims, donc ça peut vouloir dire qu'il voit des serpents, dotés de six ailes. Six ailes, une demi-douzaine d'ailes. Ouais. Oui, ça ressemble un peu au symbole des parachutistes israéliens. Vous connaissez le symbole de l'unité des parachutistes. Alors, c'est un serpent avec six ailes, comme ça. Ça fait un peu une sorte de dragon, comme ça, menaçant. En tout cas, quelle que soit la signification exacte du mot séraphim, en tout cas, c'est ça qu'il voit, Yeshayahu. Il voit dans le temple de Jérusalem, il voit des séraphim. Et les séraphim s'adressent l'un à l'autre et disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Tsevaot Melokh Olaharetz Kevodo. Saint, Saint, Saint et l'Éternel Zebaot, sa gloire emplit toute la terre. Alors, vous savez quoi, trois fois saint? Il y a différentes manières de comprendre le mot, ce que veut dire trois fois. D'après, 3 fois 6, 18. Donc 18 L. Donc, bon, c'est fini, hein. D'après Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, le mot, quand on répète un mot trois fois, ça veut dire un nombre infini de fois. C'est comme s'il disait Kadosh, 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 à l'infini.
Au passé, au présent, au futur.
Non, c'est pas ça que ça veut dire. D'après Rabbi Yehuda Halevi, quand on dit quelque chose trois fois, c'est une manière de dire infiniment. Donc ça voudrait dire que les séraphim en question ont dit que Dieu est infiniment saint. C'est-à-dire à l'infini. Mais que veut dire ici le mot Kadosh? Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Bien, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire exactement le mot Kadosh. Le mot Kadosh veut dire saint. N'est-ce pas? Le mot saint signifie ce qui est éloigné.
Éloigné,
loin. C'est loin. Peut-être. En tout cas, donc, quand on dit la Kadosh Baruch qu'il est Kadosh, ça veut dire qu'il est infiniment loin. En français plus simple, ça veut dire la transcendance absolue. Il est absolument loin. C'est ce que comprennent les séraphims. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des séraphims, parce qu'ils brûlent tout. C'est-à-dire pour accéder à la divinité, il faut donc tout détruire, à la limite. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de place à quoi que ce soit. N'est-ce pas? C'est ça le séraphin. Il est brûlant. Et c'est une conception du monde qu'on appelle la transcendance. Mais elle entre en contradiction avec une autre conception du monde qu'on appelle en français l'immanence. L'immanence, ça veut dire la proximité, la présence absolue de Dieu. Transcendance et immanence. Ce sont des mots en français tout simples. Ça veut dire, transcendance, ça veut dire l'éloignement. Il est au-delà de tout entendement. Et l'immanence, ça veut dire la présence totale, absolue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la beracha. Il y a kedusha et beracha. Peut-être. On peut rajouter ça. On peut mettre ça en rapport avec Hachem et Elohim. Mais en tout cas, ça peut être aussi un peu plus large que ça. Mais enfin, bon. Parce qu'on peut dire aussi que Shem Havaya aussi, ça serait en rapport avec l'immanence d'une certaine manière. Le Shem Havaya serait la relation entre la transcendance et l'immanence d'après le Nefesh HaChaim. Donc, l'immanence absolue n'a pas de, la transcendance absolue n'a pas de nom. C'est le Ein Sof, l'infini. Et donc, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Maintenant, qui c'est qui est conscient de l'immanence? Eh bien, c'est pas les séraphim. Ce sont les Ophanim. Ophanim, en français, des Ophanins. Des Ophanins. Oui, dans les Bibles en français, vous avez les Séraphins et les Ophanins. C'est-à-dire, en hébreu, Séraphim et Ophanim. Maintenant, ça veut dire quoi, Ophan? Ça veut dire... Non, Ophan, c'est pas une face, pas du tout. Ophan, ça veut dire une roue. Une roue, oui. Pour ça qu'un vélo s'appelle Ophanaim, double roue, n'est-ce pas? Oui, une moto, Ophanoa. Exactement. Et en japonais, Ishimoto. Oui. Comment? Quoi? On les appelle des roues. Ce sont des anges qui roulent. N'est-ce pas? C'est des anges qui tournent. Ça veut dire quoi, des anges qui tournent? Ça veut dire qu'ils sont intégrés dans le cycle du monde. Ça, les Ophanim. Et le prophète Ézéchiel voit les anges Ophanim dire la phrase « Baruch kevod Hashem imekomo ». bénédiction et la gloire de Dieu de son lieu. Donc ils sont conscients de l'immanence. On peut dire en fait, de certaine manière, que les séraphim sont des mitnagdim, des élèves du Gaon de Vilna, tandis que les ophanim sont des chassidim, des élèves du Baal Shem Tov. Or, il y a un petit problème, c'est que les anges n'arrivent pas à intégrer l'opinion de l'autre. Les séraphim ne savent dire qu'une seule chose, Kadosh. Les ophanim ne savent dire qu'une seule chose, Baruch. Faire la liaison entre Kadosh et Baruch n'est pas la faculté des anges. Les anges sont monocordes. Et donc, ils ne peuvent comprendre qu'une seule chose. Mais les hommes, nous autres, les enfants d'Israël, nous savons faire à la fois Kadosh et Baruch. On est mieux que les anges de ce point de vue-là. On est capable de faire des synthèses. Comme disait Rabbi Yehuda Halevi, les Yoshev Tehilot, les Rochev Aravot, Kadosh ou Baruch. C'est dans l'introduction à la Kedusha de Yom Kippour que Rabbi Yehuda Halevi dit les Yoshev Tehilot, les Rochev Aravot, celui qui réside au sein de nos louanges et qui chevauche les cieux, Kadosh ou Baruch. Nous disons à la fois Kadosh et Baruch.
Ouais, mais on le dit, mais est-ce qu'on l'intègre comme.
On est capable de comprendre. Alors, ce qu'il y a, c'est que les anges, ils se donnent l'autorisation l'un à l'autre. Par exemple, dans la bénédiction de Yotzer HaMeorot, on amène là-bas les séraphim qui disent Kadosh Kadosh, et les Ophanim, les Hayot HaKodesh qui disent Baruch Kevod HaShem Mekomo, mais on dit aussi Fenotnim Be'ahava Reshut Zelazé. Ils se donnent avec amour l'autorisation l'un à l'autre. C'est-à-dire, le séraphin, il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne comprend pas le monde du Ophan. Et le Ophan, il sait qu'il ne comprend pas le monde du Séraphin. Mais ils comprennent qu'ils doivent se donner l'autorisation l'un à l'autre. Liagdish, Liotzera, Minachatouar. Oui ? Quoi ? Ah ben oui, c'est ça. C'est les anges, ils sont bien embêtés, ils ne comprennent qu'une seule chose. Donc ils se mettent à l'écoute des tzadikim pour savoir comment est-ce qu'on fait l'unité. Non, non, ils sont en languissement comme ça. Ça les embête beaucoup de ne pas pouvoir comprendre. Mais peut-être que par les hommes, effectivement, on peut les transformer. C'est-à-dire que l'homme aurait une supériorité par rapport à l'ange qui lui permet justement d'élever le monde des anges. Dans la prophétie du prophète Zecharia. Qu'est-ce qu'il est ? Ah. C'est toi le prophète Zecharia ? Non. Bon. Donc en tout cas, le prophète Zecharia fait intervenir dans sa vision le grand prêtre Yehoshua Kohen Agadol et il est debout devant un ange, Omed Lifnei Amalach. Et là-bas, le prophète lui dit, en tant qu'organe de la parole de Dieu, il lui dit « Si tu respectes mes lois, si tu honores mon sanctuaire, « Venatati lecha mahlechim ben haomedi maele » Je te donnerai le moyen de marcher parmi ces stationnaires. Omed, c'est celui qui est stationnaire. Les anges sont appelés des stationnaires, et l'homme est celui qui marche au milieu des stationnaires. C'est-à-dire que, comment ? Il est capable de faire des liaisons, il est capable de faire des changements. En fait, ça se rapporte à tout un problème de savoir qui est supérieur à qui. Est-ce que l'ange est supérieur à l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui est supérieur à l'ange ? Il y a à ce propos trois opinions, évidemment. Il y a celle de Maïmonide, Rambam, qui nous dit que les anges dépassent de loin les hommes. Il a raison, étant donné que les anges ont une perception de la divinité beaucoup plus profonde que celle de l'homme. Il y a l'opinion de Rav Saadia Gaon qui dit le contraire. Il dit que c'est l'ange qui est supérieur à l'ange. Parce que c'est l'homme qui est supérieur à l'ange. Il a raison, puisque l'homme est doué de libre arbitre. Tandis que l'ange, il est coincé dans son niveau. Il ne peut pas bouger, lui. Il a un chaînon dans la chaîne. Il ne peut pas bouger. Et il y a la troisième opinion, celle de Rabbi Nachman de Breslav. Celle de Rabbi Nachman... Quoi qu'il y a ? Ah, tu es content. Rabbi Nachman de Breslav dit que l'homme commence son chemin en étant inférieur aux anges, mais qu'il doit par son effort devenir supérieur aux anges. C'est donc dynamique. D'accord ? On peut voir que c'est un peu ce qui se passe dans la Kedusha. Parfois, dans la Kedusha, on voit que les anges sont plus grands que nous, parfois nous sommes plus grands Que. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un voulait poser une question là? Oui, quoi encore?
Les hommes, les juifs.
Les hommes, les juifs. Les juifs sont des hommes, évidemment. Est-ce qu'un sage parmi les nations, il peut être supérieur aux anges? En tant qu'individu, oui. En tant que collectivité, non. C'est-à-dire que la collectivité des nations n'est pas faite pour dominer le monde des anges. Mais au niveau individuel, ça peut se passer.
Je sais pas, comment Rabbi Nachman peut dire qu'on devient supérieur aux anges après?
Eh bien, il y a tout un processus de teshuva qui permet finalement d'accéder à un niveau... Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup de choses. En s'attachant, il dit, en s'attachant à la racine des âmes d'Israël, qui est ce qu'on appelle le Kisé Hakavod, le trône de gloire. Oui.
Est-ce que ces anges-là, est-ce qu'ils ne font ces chants-là que pendant la journée?
Oui, les anges ne font pas la Kedusha pendant la nuit.
Parce que je sais qu'il y a quand même des chants d'anges particuliers, parce qu'on appelle dans le rapport.
Il y a des chants, oui, il y a le chant des anges, mais il n'y a pas la kedusha des anges, c'est deux choses différentes. Ça, c'est une kedusha.
On pourrait le considérer comme un chant.
C'est aussi un chant, mais c'est beaucoup plus qu'un chant.
Selon Rabbi Nachman de Bressel, celui qui parle de. Qui va évoluer comme ça, il évolue seul, donc pas dans le collectif.
Nachon.
Du coup, il peut être sur une nation, et.
Tandis que pour les juifs, ça passe par la collectivité. C'est en s'attachant au clan d'Israël qu'on arrive à être supérieur aux anges. C'est-à-dire la sainteté chez les juifs, c'est pour ça que j'ai expliqué ça tout à l'heure, ça se fait uniquement collectivement et pas individuellement. Oui.
Vous dites que l'homme
c'est son Nechama. Sa Nechama, de toute manière, est supérieur aux anges. Mais le Nefesh peut se rattacher à la Nechama. C'est en se rattachant à la Nechama que le Nefesh devient supérieur aux anges. D'accord? Ça, c'est un texte très important de la deuxième partie du Likuté Moharan, chapitre 1, lettre B. Oui. Quoi? C'est la leçon 1, au deuxième paragraphe, et dans la deuxième partie du Likuté Moharan. Voilà. Donc, je reprends ici, vous avez ici donc le Kadosh, 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 qui d'après Rabbi Yehuda Lévi signifie l'infiniment Kadosh. Et vous avez le Baruch Kevod Hashem Mekomo, c'est l'immanence, la présence de Dieu en tout. Et par la suite, on amène un verset du roi David, où vous direz, Kotchecha, Katouv les morts, dans tes saintes paroles, il est dit, il est écrit de cette manière, Yimloch Hashem le'olam, Elohai Irtzion Nedor Vador Alléluia, que Dieu règne à tout jamais, ton Dieu au Sion, de génération en génération, Alléluia. Ça veut dire que les Hébreux sont capables de faire à la fois Kadosh et Baruch, ce qui est notre joie. Oui.
Vous avez commencé à parler d'une chose, en fait, je ne pas. Vous avez parlé en fin de compte du fait de se rattacher au Père d'Israël, ça amènerait à la personne à dépasser en fin de compte la Kadosh et l'envers des anges.
Absolument.
Maintenant, vous avez commencé à parler même du siège qui est en fin de compte.
Oui, le siège, le trône céleste, c'est ça qu'on appelle l'âme collective d'Israël. Exactement. Oui. Très bien. Voilà, donc ça c'est pour la Kedusha. Maintenant, puisque nous avons compris les trois premières bénédictions du Shmoné Esré, s'il y a d'ailleurs un mouchoir en papier, quelque chose de ce genre, ça me serait fort utile. Sinon, je peux me lever tout seul pour en amener, c'est pas un problème. J'ai l'habitude de me servir tout seul. Étant donné que nous avons fait les trois premiers passages du Shmoné Esré qui sont une introduction à la prière, nous pouvons passer maintenant à l'essentiel de la prière qui est l'ensemble des requêtes, des demandes. Ah, c'est très gentil à toi, il ne fallait pas te déranger. Allez, ramène. Ah. Ah. Tu m'as sauvé la vie. Voilà. Non, il n'y a pas Elohair Sion. Elohair. Oui. Sion, oui, c'est Jérusalem. Parce que c'est le nom d'Israël. Sion, c'est le nom d'Israël aussi. Parce que nous sommes nommés d'après Jérusalem. C'est Jérusalem qui nous donne notre identité. Sans cela, on n'est rien. N'est-ce pas? D'où est-ce qu'on est, nous? Ben, on est d'Israël. Et puis, on a fait un petit tour à l'extérieur. C'est pas vraiment de notre faute, mais c'est pas de là-bas qu'on est. On est d'ici. Il y a un texte intéressant, il y a dans le Midrash Tanhuma, on dit que Moshe a été puni. Il n'a pas été enterré en Eretz Israël parce qu'il a laissé dire de lui qu'il était égyptien. Les filles de Jéthro, les filles de Yitro lisent de lui Ish Mitzri Tzilano Miyad Aroim. Un homme égyptien nous a sauvés des bergers. Tandis que Yosef, on a dit de lui quand il était en prison Nar Ivri, un jeune hébreu. Et donc il a reconnu son pays. Et c'est la raison pour laquelle il a été enterré en Eretz Israël, contrairement à Moshe. Et le rabbi de Ostrovtsa demandait, mais enfin, qu'est-ce qu'on reproche à Moshe, puisque lui n'était pas né en Eretz Israël et qu'il n'avait jamais vécu là-bas? Alors pourquoi est-ce qu'il aurait dit qu'il est d'Eretz Israël? Yosef, il est né, il n'est pas né en Eretz Israël, mais il a vécu en Eretz Israël, donc il pouvait dire qu'il était d'Eretz Israël. Mais Moshe, qui n'avait jamais vécu en Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'on lui reproche de ne pas avoir dit qu'il était d'Eretz Israël? Il n'y était pas. Question du rabbi d'Ostrovtsa. Réponse du rabbi d'Ostrovtsa. Cela veut dire que tout juif doit savoir qu'il est d'Eretz Israël. Comment? Même si on n'est pas né. Et alors? D'accord? Oui? Ostrovtsa. Le rabbi d'Ostrovtsa. Ouais. Alors, Jérusalem a plus forte raison. C'est le centre, c'est le cœur. Ostrovtsa. Le rabbi d'Ostrovtsa était un très grand rabbi, dont on dit qu'il a jeûné pendant 40 ans. Oui. Comment? Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne mangeait jamais. Mais ça veut dire qu'il ne mangeait jamais de manière, disons, organisée. Parfois, il mangeait. D'accord? Tiens, il faut quand même maintenir mon corps. Alors il mangeait quelque chose. D'accord? Pendant 40 ans, il a fait ça. Quoi? Oui. Le rabbi d'Ostrovtsa, qui était quelqu'un de très réputé, de très considéré, a été invité un jour à participer à une grande conférence rabbinique pour condamner les pionniers de Palestine, qui, disait-on, ne respectent pas le Shabbat comme il faut, font des averot, des tas de choses, etc. Alors il y a une grande réunion rabbinique pour dire une condamnation, pour déclarer, faire une déclaration condamnante des pionniers de Palestine. Palestine, ça veut dire Eretz Israël de l'époque. Ben, pour dire, oy va voy, c'est pas bien. Ça s'appelle une affiche comme ça. Tu sais, finalement, ça se résume en une affiche dans laquelle on écrit des grands mots tels que Gewalt, oy va voy, Shomu Shamaim. Comment? Pas une malédiction, mais ça veut dire que c'est une protestation, quoi, un pashkevil, ça s'appelle. Et alors, lors de la conférence, tout le monde était très intéressé à savoir ce qu'allait dire le rabbi d'Ostrovtsa. Le rabbi d'Ostrovtsa monte à la tribune et il dit « Le maître du monde a envoyé ses délégués, et nous allons dire du mal d'eux. » Et alors tout le monde s'est tu, ah, bon, ça va, on ne voulait pas dire, c'est pas exprès, quoi. Voilà, voilà, bon, voilà, bon. Il n'y a pas autre chose, voilà. Quand est-ce qu'on mange? Bon, ouais. Comment? C'était un grand, le rabbi d'Ostrovtsa. Bon, la preuve, c'est qu'il était sioniste. Alors, donc, revenons à nos requêtes. Voilà. Donc, l'essentiel de la prière, comme on a dit, ce sont ce qu'on appelle les bénédictions intermédiaires, qui sont. En jour de Chol, ce sont les demandes. Combien de demandes y a-t-il? 12 ou 13, voilà. Soit 12, soit 13, ça dépend si on inclut également la Birkat Aminim, de même que l'ensemble des bénédictions du Shmoné Esrei, c'est soit 18, soit 19, ça dépend comment on s'y prend. Et on commence par, donc, une requête. L'essentiel de la prière, c'est une demande, n'est-ce pas? Donc, ça commence par... Par commence comment?
C'est là.
Atachonen Adam Da'at. Ah, tu gratifies l'homme de connaissance. C'est pas une requête, ça, c'est une louange.
C'est une louange. C'est la
Ah, donc ça ne tient pas debout. Les trois premières, d'accord, les trois premières, ce n'est pas, des demandes. Mais la quatrième bénédiction, ça devrait être une demande. Si c'est une demande, il faut que ce soit écrit dans un style de demande, qui serait « Donne-nous la sagesse ». Et au lieu de ça, on commence par une louange. Mais les louanges, on les a déjà faites. Pourquoi commencer par une louange ?« Atahonel adam da'adum lamed enosh bina » Tu enseignes à l'homme la connaissance, et tu pourvois l'homme de connaissance, et tu enseignes à l'homme le discernement.
C'est une demande détournée, en fait. C'est une demande détournée.
Non, parce que après, il y a une demande expressément dite. « Vechonenu mi'itecha » Gratifie-nous de toi. Donc, pourquoi commencer? C'est une transition. Voilà. Une transition entre le style louangeux et le style demandeur. N'est-ce pas? Ouais. C'est pour ça que c'est fait comme ça? Pour une raison très simple. C'est que, pour demander quelque chose, il faut être doué de connaissances. Je ne peux rien demander si je n'ai pas conscience qu'il me manque quelque chose. Pour avoir conscience que quelque chose me manque, il faut avoir donc de la conscience. Donc c'est un début de connaissance. Donc, si je viens demander de la connaissance, je ne viens pas demander la connaissance, je viens demander un supplément. Mais la première couche, elle est déjà donnée. Donc je suis obligé de diviser la bénédiction en deux parties. Une partie qui vient reconnaître ce qui existe déjà, une deuxième partie qui vient demander un rajout.
Et pourquoi on ne m'a pas demandé directement un rajout?
Parce que si tu n'as pas dit que tu demandes un rajout seulement, c'est-à-dire si tu n'as pas dit d'abord qu'il y a quelque chose qui est déjà donné, en grâce, alors ta question est absurde, elle ne signifie rien. Tu dis, voilà, donne-moi la connaissance, réponse d'Akadosh Baruch Hu, mais tu l'as déjà, puisque tu as demandé. Absurdité, donc. Tu as compris? Tu dis à quelqu'un, voilà, tu viens voir quelqu'un, tu l'interviews avec un micro. Dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner un micro? Réponse, vous en avez déjà un. N'est-ce pas? Si je dis à quelqu'un, donne-moi la connaissance, c'est que je suis doué de connaissance pour demander quelque chose. Alors Dieu me dit, mais pourquoi tu me demandes alors que tu l'as déjà? Alors il faut dire, j'ai déjà une partie, mais j'en veux encore. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc c'est pour ça qu'on commence par la louange. Atar, honed adam da, tu m'amènes les jubina. Mais, verhone nu mitra, rajoute-moi encore.
Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on demande à Hachem quelque chose? C'est-à-dire, lui, il a sa volonté, et en lui demandant, il va changer sa volonté pour nous donner plus.
Ça, c'est la question fondamentale sur le bien fondé de la prière bichlal. Oui. N'est-ce pas? C'est une question sur le bien fondé. Est-ce que ce n'est pas absurde de faire une prière? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a sa volonté, comment? Parce que je vais lui demander, il va changer de volonté? C'est ridicule, aussi bien philosophiquement que moralement parlant, n'est-ce pas? Cette question a été étudiée en long et en large lors des premiers cours sur la prière qui ont été dispensés dans cette humble assemblée, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas la peine de leur demander, tout est enregistré, on peut sortir ça sur Internet, c'est dans les archives, il n'y a pas de problème. Mais cette question a été longuement, en long et en large, discutée, débattue, élucidée, n'est-ce pas? Donc, effectivement, enfin, disons que, pour être un peu rapide, je ne suis pas le même avant la demande et après la demande. Donc, si je ne méritais pas telle chose avant de demander, c'est parce que je n'étais pas encore digne. Le fait d'avoir demandé m'a changé moi, et donc j'en suis digne. Oui?
La personne qui prie, il ne demande pas ce qu'il dit. C'est comme s'il ne priait pas, en fait.
Il prie sans savoir ce qu'il dit. Donc, il ne prie pas. Donc, il y a... Ça ne veut rien dire du tout. Non, c'est-à-dire, quelqu'un qui récite les mots du Sidour, tu préfères dire. Quelqu'un qui récite les mots du Sidour sans comprendre ce qu'il dit. Ça a au moins un avantage, il accomplit la mitzvah d'être fidèle à la tradition. D'accord? C'est-à-dire, il s'acquitte du folklore. C'est un folklore, la prière. Alors, il fait du folklore. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme danse folklorique? Ah ben, moi, j'ai fait la prière. Voilà. D'accord? Mais non, à part ça, la mitzvah de la tefila, non, il n'a pas accompli, ça c'est évident. Quoi, waouh? Il y a beaucoup de gens, je veux dire pire que ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que ça veut dire et qui ne prient pas comme elles. La plupart des juifs, quand ils font la prière, ne font pas la prière. N'est-ce pas? Non, parce qu'ils n'ont pas le temps. Non, parce qu'ils pensent à autre chose. Voilà. Ils se disent, par exemple, ils disent, ils pensent, quand est-ce qu'on mange? D'accord? J'ai un ami qui, une fois, est allé faire le Shabbat avec le Rav Shlomo Karlebach. Vous avez certainement entendu parler. C'est fini, hein? C'est bon. Et alors, Rav Shlomo Karlebach faisait donc sa prière extrêmement longue, avec de la musique, des danses, etc. Ça prenait un temps fou. Et puis, à la lecture de la Torah et tout ça. Et puis, au moment de Moussaf, le Rav Karlebach dit, est-ce que quelqu'un peut faire Moussaf en 3 minutes? Alors, il y en a un qui fait il s'y met, ça, Khazan, très rapide, en 3 minutes, Moussaf est fini. Alors, mon ami demande au Rav Karlebach, mais enfin, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce qu'il vaut mieux, pendant le repas, se dire qu'on n'a pas assez prié, que pendant la prière, se dire qu'on n'a pas encore mangé. Bon. Hein? Ouais. D'ailleurs, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, dit qu'il y a des communautés dans lesquelles le minag est de faire la bénédiction des Kohanim uniquement lors de Moussaf des fêtes. Il y a des communautés où on ne fait la Birkat Kohanim que lors du Moussaf des fêtes. Et le Rama explique parce que en Galoute, on est triste. Or, pour faire la bénédiction, il faut être dans le bonheur. Or, il n'y a pas de bonheur en Galoute. Mais, il dit que lorsque c'est un jour de fête, et que c'est Moussaf, et donc on est proche du moment où on va sortir de la synagogue pour manger, alors il y a un peu de joie et on peut faire Birkat Kohanim.
Ouais, je pourrais aller manger.
Comment? Non, alors Shabbat, ce n'est pas un jour de fête. Oui, on mange, mais ce n'est pas la fête. Tandis que quand c'est les fêtes, alors il y a la joie de la fête, qui est supplémentaire, et puis on va bientôt manger. C'est la fin de la prière, alors on peut faire Birkat Kohanim. C'est ce que dit le Rama. Oui. C'est écrit dans Shulchan Aruch, hein. J'invente pas ce que je dis. Hein. Oui? Quoi? À la fin de Kippour, on fait Birkat Kohanim. Oui, on fait Birkat Kohanim aussi. Bien sûr. Non, si on a très faim et qu'on ne pourra pas tenir la prière, alors on prend un petit quelque chose. On prend un petit encas. Voilà. Hein? Voilà, c'est pour tenir le coup, quoi. C'est pour avoir la force de tenir le coup de la prière. Bon, la Guémara dit qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas manger tant qu'on n'a pas prié pour son sang. Bon, donc je reviens ici pour le date. Maintenant, pourquoi est-ce que la première des demandes que l'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est d'abord la connaissance? Il y a des tas de choses qu'on veut vous demander. Pourquoi dans cet ordre-là? Au nom très simple, c'est qu'un homme sans connaissance, c'est pas un homme. C'est-à-dire, c'est la connaissance qui est le propre de l'homme. Si on n'avait pas de... Oui, sinon on serait un animal. D'accord, donc la chose la plus importante, la plus urgente à acquérir, c'est d'abord la connaissance. Ah, là est le problème. On va voir bientôt de quelle connaissance il s'agit. On en a déjà une certaine faculté. On a un peu de connaissance. Ata honen le adam da'at. Tu gratifies l'homme de connaissance. Honen, ça vient du mot hen. Hen, chinam, gratuit. Grâce. Gracieux. N'est-ce pas? Ata honen le adam da'at. C'est-à-dire, c'est donné gratuitement. Umelamed, et après tu enseignes, en plus du début de connaissance, les enoch, à l'homme, bina, le discernement. Le mot bina est un mot masculin ou féminin? Féminin. Bina, c'est un mot féminin. Ce qui se finit en a, kamatz he, c'est un mot féminin. Quel est le masculin de bina? Bein. Ça veut dire quoi, bein? Entre. C'est-à-dire faire la différence entre deux choses. En français, le discernement. N'est-ce pas? Donc, tu nous donnes la connaissance et le discernement. Quelle est la différence entre connaissance et discernement? Discernement, on a dit, c'est faire la différence, n'est-ce pas? C'est analytique. Quel est le contraire de l'analytique? le synthétique. D'accord ? Le synthétique, c'est-à-dire de réunir deux choses. C'est d'intérioriser quelque chose. Da'at, c'est la faculté d'intérioriser. Maintenant, la Gemara nous dit Nashim da'atan kalla. Les femmes sont légères en da'at. Donc, qui c'est qui a plus de da'at, l'homme ou la femme ? L'homme. Par contre, on nous dit Bina yetera natan ba'isha. Il y a un surplus de discernement chez la femme. Donc, qui c'est qui est plus fort en Bina, l'homme ou la femme ? La femme. Donc, l'homme est spécialiste en da'at, la femme est spécialiste en Bina. Ah ah. Maintenant, la Mishnah nous dit, imen da'at en bina, imen bina en da'at. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de bina, s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de da'at. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il
faut se marier. Voilà, le mariage vient résoudre le problème de l'unité de l'homme. Il faut faire da'at et bina, c'est pour ça qu'on se marie. D'accord ? Et ça, c'est bien comme un enseignement lors des Sheva Brachot. Oui ? Comment ? Pourquoi est-ce qu'un homme aurait le droit d'avoir plusieurs femmes ? Ah ben justement, il y a un petit problème là. S'il a besoin de plusieurs femmes, c'est donc qu'il n'a pas d'unité intérieure. C'est pour ça que Yitzhak Abino, alayhi salam, Yitzhak notre maître, notre père, que la paix repose sur lui, n'avait qu'une seule femme, Rivka. Il n'avait qu'un seul nom, Yitzhak, il n'avait qu'une seule terre, Eretz Israël. Donc le Zohar nous dit que Yitzhak était l'homme parfait, Tushbarta de Avraham, le meilleur de nos ancêtres. Tandis que Avraham, il avait deux identités. Il était Avraham et Avraham. Donc il avait Hagar et Sarah. Yaakov Avinu, c'est encore plus compliqué. D'accord ? Yaakov Israël, Yishurun parfois. Alors ça donne Rachel et Léa. Il y a un problème d'identité. D'accord ? Ce n'est pas bien plusieurs femmes parce que c'est l'expression d'une dispersion de la personnalité. Le roi, c'est pas la même chose. Le roi, c'est quelqu'un d'extrêmement large. Il a plusieurs identités à la fois, puisqu'il est responsable de l'ensemble du peuple. D'accord ? Mais il y a des limites. Il n'a pas le droit d'en avoir plus que 18. Exactement. Mais il n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. C'est interdit. Bien embêtant. Non, après, il y a aussi, comment elle s'appelle, Avishag. Ça donne la 19e pour Birkat Aminim. Oui. Hein ? Non, c'est une limite. Le mieux, c'est que le roi n'ait qu'une seule femme. Mais pourquoi est-ce qu'il a le droit d'en avoir plusieurs ? Alors, il a le droit d'en avoir plusieurs, justement, parce qu'il exprime différentes volontés, différentes manières de personnalité.
Oui ?
Il y a aussi des mariages politiques, et tout ça, des alliances.
Et Yaakov, en quoi il avait quatre personnalités ?
Ah ben ça, il faut étudier. Oui, Yaakov Israël. Ça donne Rachel et Léa. Il y a aussi Bila et Zilpa, qui sont les auxiliaires de Rachel et Léa. Non, mais c'est la partie. Disons, il y a dans la reproduction, il y a le quantitatif et le qualitatif. Quand c'est le qualitatif, ça passe par la femme. Quand c'est le quantitatif, ça passe par la concubine. D'accord ? Par exemple. Bon, alors. Quoi ? J'en sais rien, moi. Je crois qu'il y en a deux. Est-ce que je peux, par exemple, au lieu de discuter de ces choses si importantes, me concentrer dans un sujet plus noble, plus simple comme ça, la prière. Hein, voilà, bon. Ata honen la dame da'at, vous me l'amenez nojbina. Et alors là, on demande un surplus. Vehonenu et gratifie-nous. Mais ittecha de toi. Ah, intéressant. La question qu'il a demandé, c'est quel genre de connaissances on demande. Par exemple, on devrait dire Vechonenu, et alors on dit la suite, selon les différentes versions, Dea Bina Veaskel, ou bien Chokma Bina Vedat. Mais pourquoi dire Meitecha, gratifie-nous de toi. C'est-à-dire une connaissance qui nous permet de savoir qui tu es. C'est ça la véritable connaissance, la connaissance du Créateur. Alors, toutes les connaissances que nous avons sont des connaissances qui sont auxiliaires pour arriver à ce but. Ça ne veut pas dire que les connaissances n'ont pas de sens. Au contraire, il faut des connaissances. Mais il y a une finalité à ces connaissances. Ce sont des connaissances qui nous permettent de savoir qui est le Créateur. Donc, Vechonenu Meitecha, c'est de toi que nous voulons avoir la connaissance. D'accord ? Alors, c'est quoi les moyens ? C'est trois choses. Dea, Uvina, Vehaskel. Que veut dire le mot Dea ? Non, alors, Da'at, c'est pas Dea. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Dea, non, pas du tout. Da'at aussi est un mot féminin. Dea veut dire ce qu'on appelle en français l'opinion. La capacité d'avoir une opinion. Ma da'atra, quelle est ton opinion ? N'est-ce pas ? Uvina, c'est quoi Bina ?
Discernement.
Vehaskel, alors, on pense, en hébreu moderne, le mot sechel veut dire intelligence. Mais haskel, en hébreu biblique, veut dire la réussite. Plus précisément, l'esprit pratique. Vaï David b'chol derachav, maskil. David, dans tous ses chemins, réussissait. Il réussissait, son intelligence lui servait à réussir. C'est-à-dire, il y a la théorie, il y a la pratique. La théorie Dea Uvina, la pratique Haskel.
Je connais pas du Rambam quand il parle de l'esprit.
Oui, mais ça c'est un autre hébreu, c'est l'hébreu du Moyen-Âge. Là, je parle d'ici de l'hébreu de la prière. D'accord, oui.
Quand c'est les hommes et les femmes, ils ont la même Amida.
Les hommes et les femmes ont la même Amida.
Puisque c'est, on a dit que c'est deux choses qui sont complètement différentes.
Oui, alors.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes demandes.
Oui, mais attends, cette demande, elle est dite ici au pluriel. Elle concerne la collectivité. La collectivité d'Israël a besoin de Dea, Bina et Haskel.
Alors, il n'y a aucun sens de prier. Hein? Il n'y a aucun sens de prier seul.
Prier seul, d'après Rabbi Yehuda Lévi, ce n'est presque pas une prière. Oui?
Dans ce livre, il manque une partie de la bracha.
Il manque une partie de la bracha dans ce livre. C'est très dommage.
Non, c'est
exprès. Non, c'est soit une erreur, soit c'est toi qui te plantes. Alors, je suppose que c'est toi qui te plantes.
On va essayer de voir.
Oui, tu as un autre c'est une autre version. Il y a deux versions. Il y a une version qui est la bonne, c'est Dea Uvina Vehaskel, qui est le texte originel de nos frères séfarades et nos frères Ashkenaz. Il y a une autre version qui dit Chochma Bina Vedaat, qui est attribuée par erreur au Hari Zal, et qui a été adoptée par nos frères les Orientaux, ce qu'on appelle les Aïdot HaMizrach, et nos frères les Chassidim. Dans le Noussar appelé Sfard. Et même dans ce Sidour qui se prétend être un Sidour marocain, ils ont introduit l'opinion des Edot HaMizrach. C'est une des erreurs qui se sont répandues de nos jours. Mais enfin, que faire? Il y a donc deux versions, Dea Bina Vehaskel et Chochma Bina Vedaat. Chochma Bina Vedaat, ça se réfère à autre chose. Chochma, la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de la chose telle qu'elle est, dans son essence. Bina, c'est l'entendement, et Daat, l'intériorisation. Voilà, donc ce sont deux manières de comprendre la demande. Baruch ata Hashem chonen adat, tu es source de bénédiction, Hashem qui nous donne, qui nous gratifie de la connaissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.